Nous sommes mercredi 11 octobre 2017, il est 21h et vous écoutez le Dojo Bar.
Bah!
Bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Bonsoir Drosgar.
Bonsoir.
Et bonsoir Zergy qui lag parce qu'il fait ses mises à jour, donc du coup il va pas pouvoir dire bonsoir tout de suite ou qu'il va faire bonsoir.
Et bonsoir à Galaxis. Ah bah non, il a contrôle de calcul mental.
Ah, c'est
demain,
presque un collégien.
Il a contrôle de grammaire sur le présent de l'indicatif.
Combien font de flux veux? Faites-vous, feu.
Non mais attends, la semaine dernière, il connaissait à peine sa table des 7, donc là effectivement, ça va être très compliqué demain. Hein. Il va y avoir des additions et des soustractions, quoi.
Est-ce que je maintenant,
à sa place. Hein.
Est-ce que maintenant il compte plus en chiffres, il compte en end spinner? Genre un spinner, ça fait deux end spinner.
Je pense qu'il faut leur calculer comme ça maintenant, les jeunes, ils font tourner l'end spinner.
Je ne sais pas. Je sais qu'ils comptent sur leurs doigts.
Bonne chance pour 5 fois 100. Hein.
Moi aussi, je me sers des doigts.
Et ça fait beaucoup de end spinner, c'est tout. Mais comme ils ont les moyens d'en acheter des end spinner, il n'y a pas de problème.
Ouais, c'est cool, c'est dalle.
Le programme de ce soir, maintenant qu'on s'est bien foutu de la gueule de Galaxies. Donc ce soir, nous allons faire une petite rétrospective Metroid. Étant donné que nous avons déjà bien parlé de Metroid 2 et de Samus Returns la semaine dernière, et qu'on a quand même pas mal parlé de Zero Mission aussi, en écoutant un petit peu le podcast, on se rend compte que bon, on a un petit peu débordé. Donc on va essayer de se concentrer sur les autres épisodes canons de la série Metroid, c'est-à-dire Metroid premier du nom. On va aborder peut-être un tout petit peu Zero Mission, mais finalement très très peu. Puis Super Metroid, qui va vraiment être le gros morceau de l'émission, et Metroid Fusion, on n'abordera pas Metroid Prime. Je pense qu'on fera une rétrospective Metroid Prime un petit peu avant la sortie de Metroid Prime 4.
Mais attends, mais est-ce que tu n'oublierais pas un jeu entre Super Metroid et Metroid Fusion? Un titre à la fois profond scénaristiquement et salué par la critique pour la profondeur de ses personnages.
Pokémon Chanel.
Et non, un jeu à l'action débridée et au contrôle fluide. Et comment dire, et à la progression cohérente. Ça, c'est important aussi. Et au level design extrêmement inspiré.
Tu veux dire un couloir?
Bah, inspiré par Final Fantasy XIII, hein, je veux dire, jeu de référence s'il en est. Donc non, on fera l'impasse sur Other M parce que Other M n'est pas canon.
Paraît-il.
Alors voilà, il paraîtrait que Other M n'est pas canon. Alors la source c'est Zergy, hein, du coup, je sais pas si c'est très objectif quoi, comme source. Bref. Mais avant cela, nous allons commencer par le tour de table de l'actualité qui va être extrêmement court. Ça va être le tour de table de l'actualité le plus court de l'histoire du Dojo Bar. Attention les yeux.
On fait un speedrun.
On fait un speedrun. Attention, préparez-vous.
Top.
Ah, Samus a des boobs, donc ça n'est pas canon. Voilà. Zergy.
Voilà.
Merci Zergy pour le... Non mais c'est l'explication officielle. Hein. C'est l'explication officielle de Nintendo.
Ah, il y a pause musicale maintenant.
Alors attention. Top, je pars de mon actu. Donc, vous connaissez Retro City Rampage?
Mais non, mortal, explique-nous ce que c'est.
Retro City Rampage est un jeu qui a la fâcheuse habitude de sortir en version physique dans des versions collector archi limitées qui sont à la limite du ridicule. Et Retro City Rampage DX sort sur Switch dans un coffret collector et une édition normale à un prix raisonnable pour un jeu de ce type-là. C'est-à-dire qu'on doit en avoir pour. Je crois que la collector est à 40€, la normale est à 25€. Et c'est déjà en rupture de stock, parce que, bah, comme d'habitude, avec Retro City Rampage, je ne sais pas ce que foutent les mecs qui créent ce jeu, mais ils ont vraiment pas envie d'en vendre, apparemment. Les quantités sont ultra limitées. Ça en devient risible. Je rappelle que la version PS Vita a été tirée à quelque chose comme 2000 exemplaires et s'échange aujourd'hui entre 200 et 300€ sur eBay pour un jeu PS Vita.
Normalement, ça se vend pas.
Normalement, ça se vend pas. Les versions PS4 sont aussi extrêmement limitées. Enfin bref, c'est juste un petit peu ridicule. Donc voilà, je trouve ça bien que des indés arrivent à sortir des jeux physiques, qu'ils arrivent à les vendre, qu'ils s'assurent des ventes en faisant des versions très 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 limitées. Pourquoi pas? Mais à ce point-là, c'est quand même un petit peu ridicule. Donc voilà, Retro City Rampage DX, j'espère que vous ferez un tirage un peu moins limité que ça, parce que là, c'est quand même un peu lourd.
Mais c'est,
et attention, ça y est, le tour de l'actu est fini.
C'est eux qui financent la version physique ou pas?
Je ne sais pas, je suppose... Enfin,
si c'est eux, je comprendrais que ce soit tiré tirage limité, parce que c'est cher hein, de faire les cartouches.
C'est probablement eux qui le financent sur fonds propres. Je sais que Limited Run Games en a fait un business de faire des jeux à tirage très limité. Maintenant, Limited Run Games lance des précommandes bien en avance, explique bien à tout le monde le nombre d'exemplaires qu'il y aura exactement, et reste quand même dans des quantités raisonnables, c'est-à-dire qu'en général, ils vendent tout, mais ils vendent tout en 48-72 heures. C'est pas ils vendent tout en 5 minutes parce qu'il y a vraiment trop de demandes par rapport à l'offre. Ils vendent tout parce que effectivement, les gens que ça intéresse vraiment d'avoir la version physique de tel jeu sur PS Vita, sur PS4 ou ainsi de suite, bah il y a 10 000, 12 000, 15 000, 20 000 exemplaires disponibles parce qu'il y a effectivement un public de 20, 30, 40 000 personnes maximum pour ça. Donc les mecs prennent pas de risques parce qu'effectivement ils les financent sur fonds propres. Néanmoins, bon, la Retro City Rampage, c'est un peu le running gag, quoi. Je veux dire, sur chaque console le jeu sort et sur chaque console il sort avec une édition ultra limitée et qui, enfin, le prochain coup, ils nous la feront à 200 exemplaires, quoi. Donc ça devient quand même un peu lourd. Donc je sais pas, si Retro City Rampage est un bon jeu, qui se trouve un éditeur genre Nicalis, THQ Nordic ou quelque chose comme ça, qui a l'habitude de faire des commandes relativement, des éditions surtout, pas forcément dans un nombre d'exemplaires totalement délirant. Mais voilà, Cinemora EX qui est sorti cette semaine sur Switch, on peut trouver des versions physiques, elles existent, ça marche, voilà. Ils en vendront pas des milliers des cents, mais il y en a. Bref. Et donc oui, Zergy qui nous dit, Osef, on peut le download sur Steam, et je suis bien d'accord.
Ou sur la eShop de la Wii, la Switch.
Sur l'eShop de la Switch, d'ailleurs.
Ou sur T411.
T411 n'existe plus, mon chéri.
Oui, c'est bien pour ça que je fais la blague. Comme ça, c'est à moitié illégal. MDR.
Mais bon, voilà, bref. Nous allons donc faire une première petite pause musicale. Vous avez vu, c'était très court. On a bien réussi.
CMB.
On va écouter un petit bout de la BO de Super Metroid. C'est le morceau, en fait, de la jungle de Brinstar, qui est pas forcément le morceau le plus emblématique de la BO, mais je voulais essayer de prendre un truc qui soit, on va dire, très reconnaissable, sympathique, et dont le thème a finalement transcendé un petit peu les autres Metroid, parce que c'est un thème qu'on retrouve remixé plus ou moins dans Metroid Fusion derrière, un petit peu dans Other M, parce que je crois qu'il y a un petit remix. Dans Metroid Prime, il y a quand même des morceaux qui lui ressemblent beaucoup, notamment la surface de Talon 4, enfin bref, un morceau assez emblématique, même si c'est peut-être pas le plus emblématique, ça dure un tout petit peu moins de 4 minutes, et on se retrouve tout de suite après. Nous voilà de retour. Et on va donc faire notre petite rétrospective Metroid, parce que ça nous permet de parler de ce jeu dont on n'avait jamais parlé avant dans le Dojo Bar. Enfin, on en avait parlé un petit peu, mais pas toujours. On n'avait pas vraiment dédié une émission complète. Et on va commencer par Metroid, premier du nom, sur NES. Alors, sachant que le jeu est ressorti sur Game Boy Advance dans la série Classic Mini, il est disponible sur la NES Mini. Il est disponible sur toutes les consoles virtuelles possibles et imaginables.
En bonus avec Metroid Prime quand on connecte Metroid Fusion, et exactement, en bonus dans Zero Mission quand on finit Zero Mission.
Ah oui, c'est vrai. J'avais complètement oublié celui-là. Mais il faut pas le finir en dessous d'un certain temps ou avec
certain
difficulté.
Je sais plus, il faut le 100%, mais il est débloquable dans Zero Mission. Ce que genre à peu près pourquoi Zero Mission c'est la meilleure version de Metroid.
Oui, c'est clair que de toute façon, enfin on en a parlé un peu la semaine dernière, mais Metroid. Au-delà du... Alors, Metroid en soi, quand il sort sur NES, c'est quand même une petite révolution, parce que on a beaucoup de jeux de plateforme action, mais qui sont très linéaires, finalement. On passe du monde 1 au monde 2, au monde 3, au monde 4, il n'y a pas vraiment d'évolution. Là, on se balade dans quelque chose de plus labyrinthique, sans être un RPG, c'est quand même un jeu qui est plus orienté action plateforme, et où effectivement il y a une grosse composante de backtracking, c'est-à-dire que quand on démarre, on a 10% de la carte accessible en gros, et il faut aller récupérer un objet dans ces 10 premiers pourcents de la carte pour ouvrir la possibilité d'avoir un couloir, une zone supplémentaire qui se débloque, mais tout ça de manière très organique. Finalement, il n'y a qu'un seul très grand niveau qui est représenté par l'intégralité de la carte du jeu.
Qui est divisé en zones quand même, puisqu'on a à l'époque il y avait déjà Brinstar, Norfair et Turian. Les voilà. Trois zones principales plus
la zone
les
de
zones.
Fin.
Les zones. Ben, Turian c'est la zone de fin et deux zones dédiées à Ridley et Cred.
Tout à fait, il y avait que deux boss d'ailleurs, Ridley et Cred. Si je dis pas de conneries.
Oui, ouais, c'est ça. Et ben, surtout l'intérêt du jeu, c'est qu'on a un jeu en scrolling horizontal, donc comme peut l'être Mario, mais avec une notion d'exploration à la Zelda, avec surtout beaucoup de choses cachées, puisqu'on a des passages secrets dans les murs, on a des items à récupérer pour augmenter sa vie ou sa réserve de missiles, qui deviennent un petit peu qui viendront les standards de la série et du genre et de tout ce qui va s'inspirer de Metroid par la suite, que ce soit Castlevania, Hollow Knight, Shadow Complex et compagnie.
Voilà, avec quand même quelques gros défauts, on en parlait un petit peu en off pendant la pause musicale, mais c'est vrai qu'il y a des jeux 8 bits qui sont encore très accessibles et très agréables à jouer. Je pense à Super Mario Bros, Super Mario Bros 3 par exemple, c'est un jeu qui est indémodable, et encore aujourd'hui on peut y jouer avec un très grand plaisir, il n'y a pas de souci. Metroid, je trouve que ça fait partie des jeux les plus difficiles à reprendre, parce que si on n'a pas une carte du jeu, ou si on ne fait pas soi-même sa carte, le jeu est quasiment infaisable. Même si les zones sont très marquées en termes de décor, c'est-à-dire on a systématiquement des décors différents, avec des ambiances différentes, des musiques différentes, je ne me rappelle pas sur la version, ça ne me semble pas.
Oui, il me semble qu'il y a des différences entre Brinstar et Norfair. Il y a une petite
variation
de musique
qui me semble aussi, ouais, mais je ne suis pas sûr. Enfin,
si, bref, bah, pour le coup, les 5 zones dont j'ai parlé ont toutes des musiques différentes.
Oui, c'est bien ce qui me semblait, mais c'est vrai que comme on passe beaucoup beaucoup de temps à Brinstar en fait, parce que c'est vraiment la zone principale du jeu, c'est la première zone du jeu en réalité, puis toutes les zones adjacentes, on y passe quand même un certain temps. Bref, donc le jeu, même s'il arrive à se différencier un petit peu, sans une carte, c'est quand même extrêmement difficile de se repérer. Si vous voulez vous refaire Metroid sur NES, le seul conseil que je peux vous donner, c'est allez vous télécharger une carte, éventuellement sans les indications de où se trouvent les armures et les upgrades de rayons, de missiles, et ainsi de suite, parce que ça gâche quand même un peu le plaisir, mais c'est vrai que sans carte interactive, c'est pas marrant. Et sans carte tout court, c'est encore moins marrant.
Après, et là, tu disais justement que, enfin, pour la différence, en fait, par rapport à Super Mario Bros, je trouve que le genre de Metroid a beaucoup plus évolué que le genre du platformer 2D, qui était déjà un peu à son apogée, rien qu'avec Super Mario Bros. Et sa prise en main, du coup, est directe. Enfin, moi, je prends ça avec mes yeux de jeune con, hein, qui n'a pas connu la console à l'époque.
Et qui a pas fait la guerre.
Ça, c'est sûr, mon général. Mais c'est vrai que du coup, Super Mario Bros, j'ai jamais eu de problème à le prendre en main. Enfin, c'est très intuitif, même un gamin de 4 ans. T'as déjà essayé tes gamins, je suis sûr.
Oui, alors, mais c'est pareil, même un jeu plus complexe, genre Kirby, il a fallu 5 minutes pour que les gamins comprennent. Vraiment très vite, parce qu'en réalité, effectivement, tu pars de la gauche, tu vas vers la droite, il y a des ennemis, tu sautes, tu bouges, c'est très simple. Metroid est déjà plus compliqué parce qu'effectivement, t'as la composante exploration, t'as la composante faut aller te casser le cul à aller chercher le moindre truc, faut vraiment aller te dire, bah voilà, j'arrive dans une zone sur laquelle bah, ça monte et ça descend, qu'est-ce que je fais? Faut que j'aille en bas, faut que j'aille en haut, faut que je fasse les deux. À un moment, je me retrouve coincé, je peux plus avancer parce que la porte s'ouvre pas, qu'est-ce que je fais? C'est déjà plus compliqué, t'as déjà effectivement le petit côté exploration qui complique les choses.
Et il y a aussi la notion de comprendre, j'ai cet objet, qu'est-ce qui me permet de débloquer?
Oui, il y a aussi ça, c'est pas si évident que ça. Mais voilà, Drosgar, je t'en prie, excuse-moi, t'as un peu interrompu.
Non mais voilà, après t'as résumé un peu ce que je voulais dire, avec l'exemple de Kirby aussi, c'était pas mal. Mais c'est vrai que je trouve aussi que le genre a tellement évolué qu'il faut, lorsqu'on reprend un jeunesse de ce style-là, comme plein d'autres jeunesses, c'est pas très français, hein, mais oublier un peu tout ce qu'on sait. Alors que c'est vrai que si tu prends un Super Mario Bros en main, t'as pas besoin d'oublier, parce qu'en fait c'est tellement intuitif que même avec tes connaissances actuelles sur les plateformes 2D, ça t'empêche pas de jouer au jeu. Alors que là au final t'as des modes de fonctionnement qui peuvent être un peu archaïques, et il faut oublier une certaine logique. Je sais pas ce que je veux dire.
Je vois parfaitement ce que tu veux dire, c'est-à-dire finalement il faut pas s'attendre à un certain nombre d'automatismes, de principes d'accessibilité. du jeu, voilà, qui nous paraissent naturels aujourd'hui, mais qui l'étaient d'abord pas forcément à l'époque.
Et même sans ça, la palette de mouvement de Samus est beaucoup plus limitée dans ce premier épisode.
Il tire en diagonale ou pas?
Bah non, justement, elle tire pas en diagonale. C'est devant ou en haut.
Elle ne peut même pas se baisser pour attaquer, de mémoire. Si tu te baisses, tu passes directement en boule morphing.
Tout à fait, si tu te baisses, tu passes en boule morphing. Tu n'as pas de position basse. Donc tu peux pas juste baisser et tirer.
Donc c'est pas mal d'automatismes qu'on a eu par la suite dans Metroid qui ne sont pas dans cet épisode. Et quand on y revient, c'est vrai que c'est un petit peu dur de choper les espèces d'hérissons qui sont au sol, par exemple.
Pardon, le bruit de Zergy qui arrive pas à parler, ça me fait trop rire, mais je suis désolé.
C'est une espèce de remix rap R&B du futur science-fiction. Mais c'est des choses qui évidemment n'apparaissent pas dans le remake Super Metro 20 de Zero Mission. Et pour le coup, s'adapte à toutes les nouveautés qui seront apportées par la suite en termes de palette de mouvements pour Samus. Mais c'est vrai que la première fois quand il rejoue après avoir fait un fusion ou un Zero Mission, c'est aride le premier Metroid.
Bah, ce que je trouve surtout un peu compliqué, c'est que. On avait une émission qui était prévue sur la difficulté et l'expérience utilisateur et ce genre de choses-là. Et c'est vrai que c'est le genre de cas dans lequel faut arriver à distinguer ce qui est punitif de ce qui est difficile. Shovel Knight, c'est difficile, mais techniquement, c'est pas tellement punitif, parce que tu as des checkpoints qui sont quand même assez généreux, que tu peux décider de supprimer, c'est ça qui fait aussi... T'as un facteur risque-récompense. Et surtout, t'étais pas tellement pénalisé. Dans Metroid, le premier, quand tu crèves, tu reviens avec 30 points de vie. Donc 30 points de vie de ta première capsule d'énergie. Hein. Et c'est tout. Et le problème, c'est que tu reviens à ta dernière sauvegarde, et ta dernière sauvegarde, elle peut être vachement loin. Et quand t'as que 30 points de vie, en fait, t'es obligé d'aller te trouver une pièce où tu vas farmer des petits ennemis à la con qui réapparaissent tout le temps, jusqu'à ce que t'aies suffisamment de points de vie. Et ça peut prendre 10 minutes, un quart d'heure. Et... moi, rien que cet aspect-là, je le trouve relativement pénible, parce que finalement, ça casse un peu le flow du jeu. Si tu revenais à full vie à ton dernier point de sauvegarde, ou si les points de sauvegarde servaient aussi de points de restauration de vie, ce qui est le cas dans...
comme on voit après.
Voilà, dans Metroid Prime, c'est le cas. Les points de sauvegarde, ça va restaurer toute la vie. Dans Metroid Fusion, c'est le cas aussi. Sur Super Metroid, je suis pas sûr, tiens, j'ai un vieux doute. Mes souvenirs me trahissent un peu. Super Metroid, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de run dessus. Mais voilà. Ça marche
Zergy,
pas du
tout, possible.
Désolé, je pense qu'il va falloir que tu rebootes. Mortal, il faut que tu coupes ça au montage, même si c'est très drôle en fait, je pense qu'on va le garder.
Mais du coup, Mortal, là, ces phases, ça fait un peu penser à des phases de non-jeu, et je suis sûr que toi, tu rapproches ça un peu dans ta tête des phases de grinding dans les RPG.
Maintenant que tu le dis, oui.
C'est un côté un peu commun.
Mais ce que je trouve surtout gênant, c'est que t'as un côté finalement. Alors Metroid 1, oui, pardon, Zergy nous dit Metroid 1, on revient au début de la zone en fait, on revient pas au dernier point de sauvegarde. Donc effectivement, c'est peut-être même encore plus punitif, parce que les points de sauvegarde pour moi étaient un petit peu plus fréquents que ça, mais. Sachant qu'il y a une sauvegarde quand tu meurs aussi, puisque tu reçois un code de progression quand tu meurs qui te permet de voir où est-ce que t'en étais. Mais oui, ça ressemble un peu à des phases de grinding, c'est-à-dire que t'es. Ce qui me gêne, c'est que tu sois vraiment puni pour être mort. C'est-à-dire que t'es mort à un endroit, pas forcément fait exprès, c'est pas forcément si évident que ça. Tu reviens au tout début de la zone, donc, et t'es obligé de faire des allers-retours dans une pièce pour aller éliminer un ennemi à la con qui va te donner 10 points de vie par 10 points de vie. Donc quand t'as 100 points de vie, bah ça va, tu passes 30 secondes. Quand t'as 300, 400 points de vie, bah t'y passes un moment. Et la première fois que t'affrontes Ridley, je vais te dire, les points de vie, tu les perds, hein, parce que faut comprendre le pattern du boss, ça peut prendre un petit moment. Donc oui, moi je trouve ça toujours un peu gênant d'avoir des jeux comme ça très très punitifs. Et c'est pour ça que, enfin, sincèrement, hein, si aujourd'hui vous voulez vous refaire Metroid le premier, faites-vous Zero Mission. C'est vraiment la version ultime de Metroid, avec les gens qui connaissent, il y a plein de surprises, les gens qui connaissent pas, c'est un jeu très agréable à parcourir. Et en plus, il y a Metroid au complet, dedans, pour le même prix.
Sachant que les cartes de jeu sont à peu près identiques, il y a quand même moyen, en ayant fait Zero Mission, de se repérer beaucoup plus facilement dans Metroid normal.
Ça, c'est clair. Ça, c'est clair.
Donc, si vous êtes prêt à vous farcir l'expérience d'origine, vous gênez pas.
On va donc passer... Alors, on a déjà parlé de Metroid 2 en long, en large et en travers la semaine dernière, même si on a essentiellement parler de Samus Returns, pas tellement de la version Game Boy, parce que malheureusement la version Game Boy est une version assez peu connue, et qui a à peu près les mêmes défauts que la version NES, avec des qualités en moins, en plus, c'est un peu compliqué.
Peut-être des trucs en plus, mais... Ce qu'on pourrait rajouter sur Zero Mission, c'est qu'il y a, par rapport au jeu d'origine, il y a quand même tout un segment qui a été rajouté, et c'est notamment ce passage-là qui a posé le design final de Samus sans son armure, donc tel qu'on peut l'avoir dans les Smash Bros.
Et ce passage-là est assez exceptionnel.
C'est une très bonne surprise, on n'en dira pas plus, mais c'est vrai que...
Vraiment, ouais, juste pour ça, ça vaut le coup d'être fait, c'est vraiment...
C'est un ajout très malin.
C'est un ajout très très malin. C'est très très agréable à jouer en plus.
Et pour ceux qui aiment le challenge, Zero Mission, le mode difficile est bien dur dur, parce que tous les upgrades sont divisés par deux.
Ouh, petit point que je ne savais pas.
Donc moitié des missiles, moitié des super missiles et moitié de la vie.
Donc, après les événements de Metroid, où je rappelle, Samus Aran est chargé d'éliminer la menace des Metroids sur la planète Zebes, la Fédération Galactique décide, et c'est là que c'est intéressant, parce que vous vous rendez compte qu'en fait Metroid est peut-être la seule licence de Nintendo où il y a un scénario, pas extraordinaire mais il y en a un,
et en plus
qui
ils s'y tiennent.
Suivi d'un épisode à l'autre.
Il y a un lore, comme on dit.
Il y a un lore et tout ça.
Il y a un canon.
Il y a un canon. Moi, je trouve ça... je pense que c'est la seule licence de Nintendo où c'est le cas.
Bah, Mario...
Il y a une chronologie Mario. On sait tous que Mario Party 4 se passe entre les deux Mario Galaxy.
Mais n'importe quoi.
Mais dis ta mère.
Mais ça, c'est dans le 1.
Non, mais putain, arrêtez de vous disputer. Non, mais c'est bon. On sait que dans la chronologie... Alors, en fait, si Mario meurt dans Mario Bros. 3, ça donne Mario Party 5. S'il meurt pas... ça donne Super Mario Odyssey. Ça, c'est... Non mais...
Bah, c'est ce qu'on suppose pour l'instant, mais...
C'est ce qu'on suppose, parce qu'on a vu les indices, on n'est pas idiots. Pas idiots, voilà, on le sait. On la connaît, la chronologie officielle de Mario, voilà. Non mais bon, Metroid, il y a vraiment... Metroid Fusion, au tout début de Metroid Fusion, il y a écrit Metroid Fusion, et en dessous, il y a écrit Metroid 4. Donc, c'est vraiment... Il y a vraiment une espèce de suivi et de progression, à la fois des personnages, de l'histoire, et de l'univers dans lequel ça se déroule. Et il y a une certaine cohérence... Alors je sais, Zergy va dire, à part Other M, mais même Other M, en réalité, ils ont essayé de broder un petit peu autour de la Fédération Galactique et autres. Ils ont essayé, j'ai pas dit que c'était réussi. Metroid Prime a aussi énormément brodé autour de ça, alors pas dans le premier, mais dans le 2 et dans le 3, il y avait quand même beaucoup d'éléments de la Fédération Galactique, le machin, le comment ça se passe. C'est quand même assez intéressant, surtout le 3 d'ailleurs. Mais bref, bon. Donc après les événements de Metroid, donc on a éliminé la menace des Metroid sur Zebes, on a éliminé Mother Brain, on a fait tout ce qu'il fallait.
C'est ce qu'on croit.
En tout cas, c'est ce qu'on croit. La Fédération Galactique décide d'envoyer Samus Aran sur la planète SR388 pour éliminer la race des Metroid de base. Parce que, effectivement, bombarder la planète avec une bombe atomique n'est pas suffisant. Ils sont en souterrain, ils sont protégés, ils sont dans leur propre embryon anti-atomique, et envoyer des soldats ça coûte cher, donc on envoie des chasseurs de primes.
Ah bah surtout les soldats se font tuer comme des merdes, comme à chaque fois.
Mais oui, on se croirait dans Resident Evil, en fait, tu vois, ils envoient l'équipe Alpha, mais au bout de quelques heures elle ne donne plus de nouvelles, du coup on envoie l'équipe Bravo, mais au bout de quelques heures elle ne donne plus de nouvelles, du coup on envoie Chris Redfield.
C'est comme dans Capitaine Flamme, hein. Ils l'appellent dès que la Fédération Galactique ne peut plus rien faire.
Oui, c'est un peu ça, mais ce qui m'énerve, c'est que la Fédération. Samus Aran avec sa pauvre petite armure, alors ok, c'est une armure Chozo, tout ça, elle a un laser machin, elle est fofolle, elle a fait un entraînement mystique, en Allemagne de l'Est, mais, voilà quoi, elle est à elle toute seule, elle arrive à latter des armées de pirates de l'espace et de monstres et tout ça, alors que la Fédération Galactique, ils chient dans leur benne
elle a un rayon à glace et pas eux.
Putain, voilà, c'est juste ça en fait. Si les mecs avaient inventé le frigidaire, c'était réglé.
C'est exactement ça.
C'est quand même assez atroce.
Donc elle va sur la planète pour détruire les 40 Metroid qui ont été détectés. Elle les bouge tous.
Et là, il y a un dernier Metroid qui sort de son œuf exactement au moment où Samus arrive et qui la prend pour sa maman. Et du coup, Samus n'a pas le courage de tuer
le bébé Metroid,
qui est trop mignon.
Et là, Zergy va criser, mais il va criser en silence. Parce qu'il est mieux. Et là, donc le bébé, donc la Fédération Galactique décide de sécuriser ce Metroid plutôt que de le tuer, pour pouvoir l'étudier. C'est là que tu vois que les racines aliens du truc, où en fait, comment dire, Wayland Corporation ne veut pas détruire l'alien dans les films Alien. Wayland Corporation veut toujours les capturer pour les étudier ou les transformer en armes.
Bah là, c'est pareil avec Metroid.
Voilà, la Fédération Galactique, c'est un peu pareil. Et alors, je sais plus, c'est le bébé se fait voler, me semble-t-il, par les pirates de l'espace.
En fait, c'est Ridley qui débarque dans la station où Samus avait laissé le bébé. Ouais. La station balance un message d'alerte. Donc, c'est l'écran titre de Super Metroid. C'est juste au moment de l'attaque. Et donc, Samus débarque. Tout le monde est mort dans la station. Et là, on se trouve Nene et Ridley, qui était censé avoir crevé dans le premier, et qui se barre avec le bébé après avoir tout fait péter.
Et qui retourne sur la planète Zebes, la planète d'origine des pirates de l'espace.
Alors, techniquement, non, mais c'est là où ils ont eu domicile.
Ah oui, pardon, c'est pas leur planète d'origine.
Enfin, c'est surtout parce que c'est la planète où il y a Moverbrain.
Oui, qui finalement était pas morte.
Bah non plus.
Ce qui fait d'ailleurs de Super Metroid à la fois une suite scénaristiquement, mais aussi une espèce de remake, puisqu'on va revisiter des zones déjà connues qu'on a déjà visitées dans Metroid.
Et voir des ennemis qu'on a déjà vus dans les premiers Metroid.
C'est quand même assez fort d'ailleurs, parce que les pirates de l'espace sont quand même une technologie ultra balèze, vu le nombre de fois que Ridley ressuscite dans la série. Parce que.
Putain, c'est clair.
Je crois que ce mec ne meurt jamais.
Bah en fait, il meurt effectivement jamais. Motherbrain est officiellement morte. Après les événements de Super Metroid, non mais on dit pas comment, ça a l'intérêt. Mais le problème en fait, c'est que Super Metroid est un jeu qui est absolument magnifique, même encore aujourd'hui. Pareil, disponible sur Super NES Mini, disponible sur. Jamais ressorti sur Game Boy Advance d'ailleurs, je suis assez étonné parce que c'est le genre de truc qui aurait été un bon candidat, je pense, à un remake sur Game Boy Advance.
Bah, ils ont préféré faire un nouvel épisode et un remake du premier.
Ouais, mais ce qui n'est pas plus idiot hein, d'ailleurs, mais disponible sur SNES Mini, disponible sur toutes les virtuelles consoles que tu peux imaginer. Et c'est un jeu qui est toujours aussi magnifique, c'est-à-dire que l'intro, effectivement, dans la station spatiale, il y a des cadavres un peu partout, il y a une ambiance assez pesante, il y a une musique assez flippante, il y a vraiment dans Super Metroid, je trouve une capacité de mise en scène. Sans avoir une ligne de dialogue, il y a à peine quelques lignes de dialogue écrites, mais c'est vraiment, c'est juste des lignes d'introduction. Voilà. Mais tout le reste de la mise en scène se fait uniquement, toute la narration se fait uniquement par le ce qu'on voit à l'écran, par juste la mise en scène et par juste l'animation de sprite à l'écran. C'est assez extraordinaire parce que tout est clair, tout est limpide et le jeu est super prenant. On repart sur les mêmes bases que Metroid, mais avec une recette bien plus affinée, bien plus améliorée. Il y a une carte, enfin, interactive. Il y a tout un tas de subtilités qui simplifient la vie.
Maintenant, le monde, c'est plus juste deux zones principales et trois zones annexes. C'est vraiment quatre grosses zones, avec chacun leur boss à eux. Donc on a Crateria, qui est la zone en surface, et qui notamment aura un passage très sympathique dans le vaisseau fantôme. On retrouve Rinstar qui est devenu une jungle verdoyante, donc c'est la musique qu'on passait tout à l'heure. Ce qui surprend beaucoup quand on a joué à Zero Mission avant ou au premier Metroid.
Le premier Metroid, c'est essentiellement des cavernes, des caves, puisqu'on descend de plus en plus profond dans Zebes. Dans Super Metroid, ils ont quand même tourné un peu ce truc-là en essayant de faire des zones plus marquées aussi en termes de design. Et effectivement, tu as la jungle, tu as la lave, tu as la surface, mais c'est beaucoup plus différencié. Avec à chaque fois un style particulier, une ambiance particulière, et notamment cette ambiance de jungle est effectivement super surprenante. Fait un peu caverne luxuriante, quoi.
D'ailleurs, il y a Norfair, évidemment, la zone de lave, et pour finir, Maridia, qui sera l'indispensable zone aquatique, qui permettra d'introduire notamment le costume de gravité, qui deviendra lui aussi un standard par la suite dans la série. Et il y a aussi un petit hommage au premier Metroid, puisque l'introduction du jeu, je crois, pour récupérer la Morph Ball ou je sais plus quel objet au tout début du jeu, quand on arrive à Crateria, en fait nous fait repasser par la zone où on a affronté Moverbrain à la fin du premier jeu.
Oui, c'est vrai qu'il y a ce petit clin d'œil très sympa avec cette salle qui, dans le premier, c'est l'enfer sur Terre, parce qu'il y a des lasers partout, il y a des Cheerios violets qui t'arrivent sur la gueule.
Ah, les Cheerios.
C'est quoi les Cheerios? Ah, c'est pas des vieux trucs à manger à l'apéro?
Non, c'est des vieilles céréales à l'avoine absolument atroces, bourrées de sucre.
Bref. C'est des espèces de noces colorées.
Mais miniatures.
Voilà.
On n'est pas là pour discuter des Cheerios.
Et donc l'attaque principale de Moverbrain dans le premier, c'est des Cheerios.
Ah oui, d'accord, ouais, je vois.
Bon, il y a un rayon laser aussi.
Il y a un petit rayon laser, enfin bon. Mais c'est vrai que il y a plein de... quand on dit c'est à la fois la suite et le remake, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que comme ça se passe dans des décors, finalement, ça reprend un petit peu, je trouve, le principe de Zéro Mission avant l'heure, finalement. C'est-à-dire de se dire, les gens connaissent, les fans de Metroid connaissent déjà ça, parce que les fans de Metroid, il y en avait au moment de la sortie de Super Metroid. Metroid était déjà un jeu emblématique de la NES, donc il y avait des fans. Et le fait d'aller dire, on est finalement dans les mêmes décors, en partie au moins, la base des pirates s'est un peu étendue depuis la dernière fois, mais il y a quand même une partie qui est commune, ça permet de faire des clins d'œil très sympas, tout en essayant de surprendre le joueur en mettant des passages un peu autrement, en mettant des couloirs qui vont tourner différemment, en changeant un peu le cheminement. Zéro Mission faisait ça très bien, changer le cheminement standard du Metroid en disant voilà, d'habitude les joueurs de Metroid ils avaient l'habitude de voilà, ils arrivent là dans ce truc là, ils montent, ils vont jusqu'à telle zone, ils récupèrent telle arme. Et là on dit ah bah non c'est bloqué, tiens, il va falloir que tu te démerdes pour trouver un passage secret. Je trouve que Super Metroid tourne un petit peu ça, alors peut-être un peu moins fortement que Zéro Mission qui assume vraiment son statut de remake jusqu'au bout, mais le simple fait que ça se passe dans le même décor, en tout cas au départ, ça permet de faire plein de clins d'œil sympas, et que ce soit des ennemis, que ce soit des salles, que ce soit des boss même, puisqu'effectivement on va réaffronter Ridley.
Mais Ridley et Kred qui pour le coup par contre vont
Kred bénéficier... géant.
Voilà, ils vont bénéficier vraiment de la puissance de la Super Nintendo, parce que Kred dans le premier il est tout petit. Et à partir donc dans Super Metroid et dans son remake Zéro Mission, il prendra plusieurs écrans, quoi.
Et c'est gigantesque.
C'est d'ailleurs un petit peu un des arguments de vente de Super Metroid. C'est pour ça que c'est un des premiers boss, c'est que on a un boss qui s'appelle Kred, il est géant, il rentre pas dans l'écran en fait.
Ah putain, oui, d'accord. Je vois la différence par rapport à celui de NES que j'avais pas fait, enfin que vite fait, c'est impressionnant.
Bah c'est à dire que Metroid, Super Metroid est un jeu qui est techniquement super impressionnant, même sur Super NES, ça fait partie de... T'as le pixel art est vraiment poil de fion. Hein,
c'est... On a une tendance à l'oublier, mais Super Metroid, c'est un des jeux les plus poussés de la Super Nintendo. Ça utilise vraiment beaucoup d'éléments graphiques, le jeu est super complet. Il y a vraiment beaucoup de nouveautés. Enfin, on peut parler un peu des nouvelles capacités, notamment celle qui permet d'aller très très vite.
Et qu'on n'appellera pas la capacité Sonic parce qu'on se respecte.
Voilà, le Speed Booster, je sais plus comment il l'appelle en français.
Le Knuckles.
Zergy nous dit c'est 24 mégas de bonheur, c'est vrai que c'est aussi une des plus grosses cartouches de Super NES. C'est quand même un truc intéressant. Il y a énormément d'assets qui sont utilisés dedans et pas forcément beaucoup d'assets recyclés. Mais effectivement, le Super Vitesse,
je crois que c'est ça. C'est le genre de truc que tu t'imagines pas sur NES, quoi. Enfin, le niveau de puissance du truc était assez incroyable, quoi. Ça allait vite, t'étais encore à peu près fluide et t'avais plusieurs versions de Samus qui avançaient à toute vitesse pendant que le niveau, ben, il chargeait sans problème, quoi.
Et puis surtout, tu avais, je crois que dans le premier, t'avais pas cette sensation de montée en puissance du personnage. C'est-à-dire que finalement, tu progressais dans le sens où toi, en tant que joueur, tu appréhendais de mieux en mieux les patterns des ennemis, tu connaissais de mieux en mieux les lieux, donc tu savais comment passer certaines salles plus facilement et ainsi de suite. Tu retrouves cet élément-là de progression du joueur. C'est-à-dire que tu finis par savoir que quand t'as tel type d'ennemi en face de toi, tu envoies un rayon de gel, un missile, tu le tues très rapidement, alors que si t'essayes de le bourrer au rayon, ça va mal se passer. Mais voilà, t'avais pas forcément d'éléments de progression. Là, il y a des passages très difficiles parce que il y a vraiment des moments où Samus est vraiment très peu puissante par rapport à son environnement dans Super Metroid. Mais vers la fin du jeu, t'es juste indestructible. Tu passes à travers tous les décors à la vitesse de l'éclair parce que t'as la super vitesse qui passe à travers les murs, les ennemis, les décors. Et c'est absolument jouissif de se sentir comme ça tout puissant.
Oui, parce que t'as des capacités comme le soin infini qui permet vraiment d'aller partout, combiné à l'attaque vrille qui te permet de tout détruire sur ton passage. Le rayon, maintenant, le meilleur, c'est plus le rayon à vague, c'est le rayon de plasma qui, en plus de traverser les murs, traverse les ennemis.
Oui.
T'as les super missiles qui font de gros dégâts, t'as la bombe de puissance qui annihile absolument tout sur l'écran.
Ouais, c'est une espèce, ça fait comme un clear screen, hein, c'est vraiment...
Il y a toujours, de toute façon, c'est là pour tous les Metroid, mais t'as toujours cette série de 3-4 upgrades qui est vraiment très très puissante, qui t'offre des capacités de mobilité et de destruction bien plus élevées que ce que tu peux avoir au début du jeu, et qui font que généralement, en dehors de peut-être certains boss qui évidemment prennent en compte ces aspects-là, font que tu roules sur absolument tout le reste du jeu. Et c'est ça,
faut atteindre la fin quand même. Enfin, faut atteindre la toute fin du jeu, parce que c'est vraiment dans les tout derniers niveaux que tu débloques ces upgrades de malade.
Ouais, voilà, si tu l'auras à la fin du jeu, parfois il te restera, souvent il te restera juste Ridley à tuer, d'ailleurs. Mais c'est ce sentiment de montée en puissance en fait qui va définir par la suite, mais enfin qui va rester en fait au niveau des joueurs de Metroid et qui va définir en fait tout le genre du Metroidvania. Donc il y a en fait finalement des, enfin pour moi c'est juste, on devrait juste dire Metroid-like parce qu'au final Symphony of the Night c'est juste un Metroid. Mais qui...
Alors Symphony of the Night rajoute un petit côté RPG que tu n'as pas dans Metroid. Mais je pense que c'est pour ça que les gens ont fait l'association, c'est-à-dire que finalement t'as le même principe d'exploration, à savoir effectivement t'as une carte gigantesque qui est pas un open world, hein, c'est vraiment juste t'as une très grande carte d'un endroit défini qui s'ouvre par petites touches avec beaucoup de backtracking. La définition du Metroid-like pour moi c'est ça. Et Super Metroid rajoute effectivement la montée en puissance du personnage que tu avais un petit peu sur NES, mais qui était quand même assez limité, où là on te fait vraiment monter en puissance énormément. Castlevania, notamment Symphony of the Night, va surtout rajouter la composante un peu plus RPG, c'est-à-dire tu vas aller récupérer des objets sur les ennemis ou ailleurs d'ailleurs, qui vont te permettre d'avoir des puissances un peu différentes, d'ajuster ton personnage, d'avoir plus de défense, plus d'attaque. Là, Metroid, la progression est beaucoup plus simple. Quand tu chopes le costume Varia, et ben, t'es juste plus résistant, t'as le costume de gravité qui te permet de sauter d'être sous l'eau comme si t'étais dans l'air, et ainsi de suite. T'as une progression, mais qui est finalement plus linéaire sur chaque élément, que ce soit d'arme ou d'armure.
Mais bon, le sentiment de puissance, voilà, c'est souvent ce que les gens vont reprendre en fait dans leur Metroidvania, ce qu'on peut retrouver dans des jeux comme Shadow Complex, notamment, où plus t'avances dans le jeu, plus t'es puissant, plus t'as d'armure, plus tes flingues vont faire de dégâts et compagnie. Et ça fait partie des aspects qui vont être retenus de Super Metroid. L'autre aspect, en plus du backtracking, c'est ce qu'on appelle le sequence break, où la capacité... capacité tout simple de sauter carrément des bouts du jeu avec des techniques particulières ou en utilisant le level design qui a été pensé pour. Faut savoir que Super Metroid possède deux techniques cachées qui ne sont à aucun moment montrées de façon directe aux joueurs. Enfin, en tout cas, c'est pas un upgrade, c'est des choses qu'il a dès le début ou là avec un objet mais qu'on lui dit pas forcément. Donc, qui sont la capacité de faire des sauts sur les murs, qui est quasiment le truc le plus essentiel pour pouvoir justement sauter des bouts du jeu dans Super Metroid. Et ce qu'on a donc une dérive de la super vitesse, je crois qu'il n'a pas de nom, français qui s'appelle le Shine Spark, qui est d'ailleurs un hommage à une série de robots japonaises, puisque l'attaque spéciale du robot avait porté ce nom-là, et qui en fait, quand on fait la super vitesse, qu'on décide de s'arrêter, on conserve encore un peu le boost et en faisant un saut sur place, Samus va être propulsé dans une direction à toute vitesse et va détruire tout sur son passage en échange de portions de vie qui vont se drainer au fur et à mesure.
Oui, effectivement, mais c'est vrai que Super Metroid avait aussi inclus... c'est intéressant qu'on parle de speedrun parce que Super Metroid est un des jeux presque fondateurs du speedrun. C'est pas vraiment le jeu fondateur, parce que les mecs de Speed Demo Archive le diront eux-mêmes, le jeu fondateur pour eux c'est Quake, c'est là où eux ont commencé, mais néanmoins Super Metroid incluait cette notion de speedrun dans le jeu lui-même, puisque quand tu finissais en dessous d'un certain timing le jeu, en dessous d'un certain temps déterminé, tu avais une image de fin qui était... où Samus était de plus en plus dénudé, en fait, techniquement.
En fait, tu voyais Samus sans son armure, mais c'était le cas dans le premier aussi. Hein.
C'était le cas dans le premier aussi, où t'avais cette composante-là. Je trouve que dans Super Metroid, elle a quand même été poussée, parce que t'as plusieurs fins différentes. On t'indique le temps que tu fais, qui n'était pas le cas dans Metroid sur NES, pour moi. Et on t'indique aussi ton pourcentage de complétion. C'est-à-dire qu'on te dit, t'as fini le jeu à 100%, t'as trouvé tous les objets, ou t'as fini le jeu à n'importe quel pourcentage. Et pour moi, le premier vrai speedrun, c'est vraiment Super Metroid, parce que justement, il y a ces histoires de sequence break, le fait d'aller faire le jeu pas dans l'ordre qui était prévu au début par les développeurs, mais pas prévu, on sait pas vraiment, en fait. Parce
en fait, il n'y a pas vraiment d'ordre. Il t'indique pas où aller. Moi, j'ai découvert, après avoir fini Super Metroid, qu'il y avait un objet qui était la possibilité de sauter en boule, et j'ai fait tout le jeu sans l'avoir. Donc, au final, comment le jeu était pensé, dans quel ordre tu devais faire les trucs, c'est jamais indiqué. Et tu peux, je pense qu'il y a moyen de récupérer certains objets avant d'autres sans trop de soucis.
Oui, tout à fait, mais comme dans Metroid Prime, une des techniques de base consiste à essayer de récupérer les bottes de double saut avant tout le reste.
C'est ça.
Mais c'est là, c'est vraiment du sequence break, en l'occurrence, c'est vraiment profiter d'un bug pour récupérer cet objet-là qui. Mais bon, donc Super Metroid, jeu ultra important pour la série, puisque ça a vraiment été une pierre angulaire. Ça fait partie des tout meilleurs jeux de la Super Nintendo, ça fait partie des jeux qu'il faut, à mon avis, absolument avoir essayé, ça fait partie des jeux qui sont, comment dire, étonnamment modernes. Je sais pas si.
C'est des jeux qu'on. Super Metroid est un jeu qui a super bien vieilli. Enfin, si t'as joué à Zéro Mission ou Fusion, bon, tu verras qu'il y a peut-être un ou deux éléments un petit peu plus durs. Je trouve que le saut infini est un peu plus dur à exécuter, notamment dans cet épisode. Mais au final, il n'y a pas trop de différence avec ce qu'on a pu avoir sur GBA en termes de jeu. Et même. Même
10 ans plus tard.
Ouais, voilà.
Voilà.
10 ans plus tard et même 20 ans plus tard, parce que Samus Return se base énormément sur Super Metroid pour tout ce qui est le feeling, les déplacements et de manière générale les impressions de jeu, la montée en puissance et compagnie. Ce qui est peut-être un petit peu différent de ce qui a été fait sur Game Boy. Et c'est là en fait où on se rend compte que Super Metroid est un jeu absolument essentiel à l'histoire de Metroid et du jeu vidéo. C'est que c'est une référence à l'heure actuelle. Enfin, je sais que ça fait partie des jeux préférés des Américains sur la console, peut-être même plus que Link to the Past, hein, pour le coup.
Tu t'avances beaucoup là quand même.
Peut-être, c'est pour ça que je dis peut-être. Mais c'est enfin, Metroid, c'est un jeu qui est vraiment, enfin, Super Metroid, c'est un jeu qui est vraiment culte, surtout aux États-Unis et en Occident, moins au Japon où ils sont pas des grands fans de Metroid.
C'est ce que j'avais cru comprendre, à mon grand étonnement, c'est que finalement le jeu, enfin Super Metroid a marché correctement au Japon, mais c'était pas la folie, le statut culte, il l'a vraiment acquis aux États-Unis.
Ouais, non, mais oh, si tu veux une comparaison, Kirby est plus populaire que Samus au Japon, hein, c'est pas un problème ça.
J'aimerais qu'on honore une minute de silence pour Metroid au Japon. Voilà, donc la minute de silence est faite. Enfin, je comprends, Kirby est un personnage qui est très kawaii, typiquement japonais, tout ça, mais c'est vrai que. Enfin bon, ce qui m'étonne toujours avec Super Metroid, c'est à quel point effectivement le jeu est moderne, et aujourd'hui encore, il n'y a pas grand-chose de choquant. Effectivement, peut-être quelques manips un peu difficiles, mais il n'y a vraiment pas grand-chose de choquant dans ce jeu, et il est toujours étonnamment jouable aujourd'hui.
En fait, si vous le refaire actuellement remake, ce sera ajuster une ou deux manips et éventuellement rajouter un moyen de pouvoir guider le joueur. Mais en vrai, il n'y a pas grand-chose de plus à changer, quoi.
Et encore, le moyen de guider le joueur, au final, on se laisse quand même bien guider et par les décors et par les capacités. Enfin, même quand on connaît pas si bien le jeu que ça, on se laisse quand même guider par les décors, on se laisse quand même guider par son instinct. Il y a la carte qui permet quand même de se repérer beaucoup plus facilement. Je trouve que même sans guide officiel, finalement, qui dit c'est là qu'il faut aller, un peu à la Metroid Fusion, on va y venir, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien
Oui, non,
dans Super Metroid.
si on n'a pas peur d'explorer le
Voilà.
jeu, d'être un petit peu curieux et d'expérimenter un peu en cherchant sur les murs et compagnie, il y a toujours moyen d'avancer et de pas de rester bloqué très longtemps. Dans le pire des cas, on récupère une ou deux upgrades, on trouve un petit passage secret.
C'est ça aussi qui fait un peu le sel des Metroidvania finalement, c'est que t'as toujours quelque chose à faire, et même quand tu backtrack en te disant bon, je sais plus trop où aller, donc je vais revenir en arrière parce qu'il me semble qu'il y avait une porte qui sort. T'as toujours des choses à faire sur le chemin, tu viens de récupérer, je sais pas, les missiles, et ben, les missiles tu vas pouvoir t'en servir pour récupérer deux, trois trucs sur le chemin. C'est ça aussi le génie de ce level design-là. C'est de se débrouiller pour que tu aies toujours l'impression de progresser, pour que tu sois toujours récompensé en tant que joueur, et pour que tu sois toujours récompensé à explorer. C'est pas l'exploration pour l'exploration, c'est vraiment exploration, risque, récompense, et c'est cette boucle-là qui continue en permanence, où le fait d'explorer, le fait de prendre des risques, te récompense quasi systématiquement.
C'est
aussi ça qui est très agréable.
Ce qui m'avait un petit peu manqué dans Samus Return, je trouve, qui pour le coup ne te forçait pas à prendre autant de risques dans son exploration, à cause des petites zones.
Voilà. Et tout cela nous mène bien gentiment, bien tranquillement,
à l'épisode 4.
À Metroid Fusion.
Donc, qui est quand même sorti 8 ans après,
8 ans plus
7
tard.
ou 8 ans après Super
Ouais.
Metroid, hein, ce qui est quand même énorme.
Ça, je te le fais pas dire, qui est sorti sur Game Boy Advance.
Un des premiers jeux de la console.
Un très bon jeu de la console, surtout.
Un excellent jeu de la console, surtout, effectivement.
Je préfère Zero Mission, mais.
Mais
C'est un bon
bien quand
titre.
même. Non, mais c'est un excellent titre. Donc l'histoire continue, donc c'est toujours pareil, très étonnant avec Nintendo, il y a un scénario suivi.
Waouh.
Non mais c'est la folie.
Il y a des dialogues aussi. Hein.
Il y a des dialogues.
Il y en a vraiment beaucoup dans Fusion.
Dans Fusion, il y en a beaucoup, ils sont mieux écrits que dans Other M.
C'est pas très dur.
Je pense que Zergy est en train de se retourner dans sa tombe qu'il n'a pas.
Bah, en même temps, c'était pas très compliqué de faire mieux écrit qu'Over M, puisqu'ils font pas parler Samus quasiment.
Oui. Mais on va dire que le scénario continue, donc à la fin de Super Metroid. Alors je vais spoiler un jeu qui a 25 ans, c'est la honte, mais vous le ferez de toute façon. L'expérience est plus intéressante en réalité.
De toute façon, si vous avez joué à Fusion ou à Over M, vous avez déjà été spoilé.
On est bien d'accord. Donc à la fin de Super Metroid, le bébé Metroid que Samus avait sauvé dans Metroid 2 sauve Samus à son tour et se fait tuer par Mother Brain.
Qui a été ressuscité.
Non,
qui a été ressuscité parce que c'est un peu comme dans un comics, personne ne meurt jamais, vraiment. Hein, c'est pas fait pour.
N'est-ce pas Ridley ?
Et qui va revenir d'ailleurs. C'est vrai qu'effectivement Ridley, maintenant que je tilte, il est dans tous les Metroid Prime, il est dans tous les Metroid, il est dans Other M.
Ah, il est partout. Non, mais ils l'ont mis dans tous les épisodes. Hein.
Ah, il est...
Sauf dans Prime Hunter.
Putain, j'ai jamais... Je crois que j'ai jamais fini Prime Hunter à 100%.
Je crois qu'il n'est pas dans Prime... J'ai jamais touché à Prime Hunter, mais il me semble pas qu'il y soit.
Ah, faudrait que j'y retourne pour voir. Je serais assez curieux de savoir. Bref. Donc, à la fin des événements de Super Metroid, donc voilà, Samus quitte la planète des pirates de l'espace.
Bah, en fait, elle a pas trop le choix parce que la planète a explosé.
Oui, mais c'est un détail, ça.
Ça deviendra une habitude.
Ça deviendra une envie de faire tout péter aussi. Attendez, ce qu'on a quand même oublié un élément important, c'est les chronomètres et la fuite. Ah, ça oui, aussi, ça deviendra oui, oui, un élément absolument primordial qui est introduit dans Super Metroid.
Bon, non, dans le premier.
Ah oui, après avoir tué Overbrain, il faut s'échapper très vite. Ouais.
D'ailleurs, dans Zero Mission, il faut le faire deux fois.
Bah attends, c'est normal. Attends, dans Metroid Prime, il faut le faire aussi une fois dans la station spatiale des pirates au début et dans le cratère de la
non,
fin.
Non, tu le fais pas dans le cratère.
Tu le fais pas dans le cratère ?
Non, par contre, dans Metroid Prime 2, tu combats le boss final pendant le...
Ah oui, pendant l'effondrement
En fait, voilà, à chaque épisode, c'est un classique.
Il y a un chrono.
Il y a un chrono avec un truc qui pète. Ce qui fait qu'en fait, Samus est quand même connue pour détruire les trucs derrière elle. Elle laisse
oui,
des ruines,
c'est la politique de la terre brûlée, si tu veux. Quand elle s'en va, elle met un rayon de plasma partout. Quoi.
Oui, et quand c'est pas la planète qui explose, comme ça arrivera à 3 reprises.
Certes, c'est lourd à porter dans un CV. Hein. Tu sais, quand t'arrives et tu dis bonjour, c'est voilà. Non, mais je suis désolé, monsieur.
Attends,
madame, vous avez fait exploser 3 planètes.
Je pense à un truc. Hein. Je crois qu'il y a pas de chronomètre dans Over M. C'est
si,
un mauvais épisode.
Si.
Ah bon, quand
il y a un chronomètre dans Over M.
Ouais, mais au milieu du jeu, c'est pas à la fin.
Non, c'est à la séquence après la fin, en fait.
Ah oui, c'est vrai. Tu dois tout faire péter, encore une fois.
Oui, parce que faut tout faire péter. Bref, donc à la fin des événements de Super Metroid... Alors, attends, je sais plus ce qui se passe.
Donc, Zebes a explosé.
Ça, je sais, mais
le dernier Metroid en
avec les X, en fait.
Alors, le dernier Metroid en captivité est mort, et elle est commissionnée par la Fédération Galactique pour se rendre sur SR388, donc purger des Metroids... Parce que je crois qu'ils ont détecté un truc bizarre
voilà,
qui s'est passé.
Ça.
Et elle se fait agresser par un monstre qu'elle tue. Donc c'est pour ceux qui ont joué à Samus Returns et qui n'ont pas fait Metroid Fusion. Vous voyez la petite bête verte de base avec ses deux pieds qui te saute dessus. Et bah c'est elle qui l'attaque. C'est une variante.
Ah, ah.
Bon, ceux qui auront fini Samus Returns sauront de quoi je parle. Et en fait, il se trouve que quand elle tue la bestiole, il y a une espèce de substance volante qui en sort et qui plus ou moins elle lui tire dessus sans rien lui faire et finalement elle disparaît en entrant en contact avec Samus. Bon.
Voilà, c'est un X.
C'est un parasite X, on l'apprendra après lorsque Samus, en partant de SR388 et en se dirigeant vers la station spatiale BSL où se déroulera Fusion, s'endort au volant de son vaisseau spatial et se crache dans un astéroïde.
C'est mal. Faut pas s'endormir
encore une fois. Hein, quand il fait nuit et que vous avez sommeil, arrêtez-vous sur le bord de la route ou sur une aire de repos pour vous reposer.
Mais dans l'espace, il fait toujours nuit.
Ceci est un message de la sécurité routière galactique.
Vinci Autoroute vous remercie de votre attention, qui sponsorise d'ailleurs cette émission. Hein.
Voilà. Et en fait, donc, il découvre que la raison pour laquelle Samus a perdu connaissance dans son vaisseau et s'est crashé, c'est à cause des parasites X qui ont infesté son armure, ainsi qu'une partie du corps de Samus, puisque ce sont des parasites qui infectent les corps, ou non. Et en fait, le seul moyen qu'ils trouvent pour la soigner, c'est d'injecter de l'ADN de Metroid, qu'ils en avaient en stock. Hein.
Parce qu'il se trouve que les Metroids étaient le prédateur naturel des X,
on
découvre sur la planète SR388, ouais. on découvre assez rapidement,
on comprendra d'ailleurs qu'ils ont été créés pour s'en débarrasser, et que le fait de tous les avoir tués, et bah fait qu'ils ont pu proliférer à nouveau.
Ce qui est quand même ultra badant, quoi. C'est-à-dire
voilà.
Que,
et donc,
c'est un peu la merde. Tu vois que là, la Fédération Galactique n'a aucun respect pour les écosystèmes extraterrestres.
C'est ça. Et donc, Samus deviendra un hybride Metroid, humain-Metroid. Alors, pour ceux qui ont vu Alien 4, wink, wink, ça ressemblerait beaucoup à quelque chose. Et bon, comme dans Alien 4, tout va se passer dans une station spatiale, la station BSL. Qui a pour utilité notamment de reproduire en partie l'écosystème de SR388 dans une de ses zones.
Ce qui va permettre de recycler une partie des assets de Super Metroid pour faire des zones de jungle, des zones de feu, des zones de... Voilà.
Voilà.
En tout cas, il y a 6 zones, non ? Il y a 4 zones.
6 ?
6 ?
Ouais, 6. Tu as la zone de feu, la zone de jungle, la zone SR388, la zone de glace, la zone aquatique et la zone obscure. Enfin, qui se passe dans le noir.
Sans compter toute la zone du vaisseau classique, voilà, métallique.
La zone centrale qui sert plus ou moins de hub géant pour tout le jeu.
C'est ça.
Et de quoi je parlais ? Oui, donc en fait, Samus s'est rappelé sur la station parce qu'il y a eu un accident. Et en fait, on découvre que les X qui étaient dans la combinaison de Samus et qui avaient été conservés sur la station, ont proliféré. Et notamment, on formait ce qui deviendra, à mon avis, la chose la plus angoissante que la série ait jamais faite, le SAX.
J'ai des frissons rien que d'en parler.
Voilà, qui est donc en fait une entité composée de Parasite X qui possède toutes les capacités de Samus.
Mais à full patate.
À full patate, notamment le rayon de glace qui, comme Samus est devenu à moitié Metroid, est très efficace contre elle, puisque je rappelle que les Metroids ne sont sensibles qu'au froid. Et du coup, deviendra un ennemi vraiment mortel que l'on croisera à plusieurs reprises dans Metroid Fusion, et qui va pour le coup être sûrement le meilleur hommage à Alien que Metroid ait jamais fait.
Ça, c'est clair, parce que ça ressemble un petit peu au premier film Alien, c'est-à-dire une espèce de huis clos dans l'espace. Samus ne peut pas s'enfuir de la station, son devoir lui interdit, mais en plus, il me semble que son vaisseau est endommagé ou je ne sais pas quoi qui fait qu'elle ne peut pas se barrer.
Je crois que la station est fermée.
Surtout, elle doit régler le problème dans la station, et que le vaisseau est nouveau vaisseau est contrôlé par une IA qui lui dit
tu vas faire ton boulot, tu vas arrêter de nous faire chier.
C'est ça.
Et c'est vrai que le SAX est quand même un truc assez flippant, parce que ses apparitions sont ponctuées par une espèce de musique ultra angoissante.
Des jeux de lumière et tout.
Je crois qu'il n'y a même pas de musique, c'est juste les bruits de pas.
T'entends clonk, clonk, clonk. Clonk, clonk.
La première fois, tu sais pas trop ce que tu sais, mais la première fois que tu le rencontres, tu ne peux pas l'affronter.
Oui, par elle contre, passe au-dessus de toi ou en dessous de toi, si je me rappelle bien.
Toutes les fois d'après, tu vas devoir lui échapper.
Oh putain, et c'est le stress, mais... C'est... Moi, rien que pour ça, j'aime beaucoup les jeux qui me font stresser, en fait. C'est-à-dire où tu ressens véritablement du stress presque physique quand tu y joues. Metroid Fusion est un jeu, je trouve, comme ça. C'est-à-dire que quand tu entends le SAX arriver, que c'est une séquence avec le SAX, mais tu pisses dans ton ben, quoi. Parce que là, tu cours comme un taré, parce que tu sais qu'il faut t'enfuir, et tu fais n'importe quoi pour essayer de te barrer le plus vite possible. Et je trouve que cet aspect-là est ultra bien rendu. On est vraiment dans une capacité à stresser le joueur qui est extraordinaire.
Voilà, et je pense qu'en fait, les gars ont compris ce qui avait fait la puissance de l'alien dans le tout premier film, c'est-à-dire un monstre qui apparaît au pire moment possible, parce que soyons honnêtes, c'est quand même souvent ce qui se passe, et qui te met une pression de fou, parce que tu sais que lui a absolument tous les moyens pour te dézinguer, alors que toi, tu es juste faible par rapport à lui. Et on parle quand même de Samus, qui est quand même globalement bien équipé pour se défendre.
Ça, c'est clair, et donc on parle du Saïx, qui est encore mieux équipé pour se défendre, du coup.
D'ailleurs, le combat contre lui à la toute fin du jeu, c'est probablement le plus dur du jeu, en fait, donc...
Alors moi, je me rappelle d'un boss en particulier qui était le générateur de gravité. Là,
le Nightmare, qui porte bien son nom.
Qui est, pareil, j'ai dû passer un temps absolument délirant dessus, avec sa gueule qui fond au fur et à mesure. Il est juste atroce, ce boss.
Cauchemardesque.
Il s'appelle Nightmare.
Voilà.
Et pour le déroulement du jeu en lui-même, parce que c'est vrai que là, le scénario est prenant, vous voyez, cette espèce de huis clos est intéressant. Il y a beaucoup de phases de dialogue, en fait, entre l'IA qui s'appelle Adam et Samus, et il y a beaucoup de monologues de Samus aussi, c'est-à-dire que là on profite des ascenseurs, des nombreux ascenseurs du jeu, c'est aussi un petit comment dire, une espèce de trempe du jeu, d'avoir des ascenseurs pour mener d'une zone à l'autre. Et là, en tout cas, au tout début du jeu, c'est peut-être un peu moins vrai sur la fin, mais il y a beaucoup de monologues de Samus dans les ascenseurs, qui développent pas forcément le scénario, mais qui permettent, on va dire, d'avoir une meilleure idée de l'état d'esprit du personnage. C'est vrai que un des trucs de Metroid, c'est qu'on est quand même seul contre l'environnement, c'est assez, un, claustrophobe, deux, très solitaire. Et voilà, j'ai l'impression que pour casser un petit peu ça, ils ont essayé de développer un peu la personnalité de Samus, c'est-à-dire voilà, le fait de la faire parler en monologue, ça l'humanise un petit peu aussi. Ça permet de se rendre compte un peu des enjeux du scénario. Mais si je vous dis, c'est quand même plus pour développer pour moi le personnage que le scénario. Donc il y a cet aspect-là, et après il y a le déroulement du jeu en lui-même qui finalement est très classique, reprend les bases d'un Super Metroid, mais un petit peu plus sur rail.
Bah pour le coup, c'est beaucoup plus dirigiste. Enfin, on avait parlé de justement ces phases de dialogue qui sont une première dans un Metroid. Et en fait, ça, je pense que c'est aussi ça, c'est que c'est un jeu qui est bien plus scénarisé. Que ce soit bon, par ces phases de dialogue, les rencontres avec le SAX qui se font aussi à des moments très précis de l'aventure, et le fait que ben, plus ça va avancer et plus la situation dans la station va se détériorer, puisqu'on va se retrouver avec des ennemis de glace qui vont envahir les autres zones qui ne sont pas la zone de glace. À un moment, il y aura le générateur de la station qui va s'arrêter, donc il va falloir le réactiver, et pendant ce temps-là, petit truc sympa, toutes les stations de sauvegarde et de recharge ne fonctionneront pas, ce qui est plutôt cohérent, mais ce qui du coup...
Et c'est donc le moment où le SAX va se ramener, hein, parce que histoire...
Voilà, on cumule tout d'un coup parce que c'est plus drôle.
Parce qu'on aime bien la pression comme ça.
Donc c'est un jeu qui est beaucoup plus linéaire, beaucoup plus scripté dans son scénario, et qui en fait du coup limite beaucoup plus le backtracking tel qu'on le connaît dans Metroid. On va te faire revenir dans les zones au fur et à mesure, mais on va te dire quand y aller, plutôt que toi d'y retourner au moment opportun. C'est vrai que c'est un changement qui peut être un petit peu gênant, mais qui à mon avis correspond aussi mieux à un format portable, dans le sens aussi où sur Game Boy Advance t'as pas non plus le temps de te perdre. Surtout pour un jeu avec des salles de sauvegarde. Donc je pense que c'est un choix qui a aussi été fait pour le format, qui est un format portable, plutôt que de rester sur des grandes zones ouvertes à la Super Metroid.
Oui, c'est vrai que le jeu est... Parce que c'est vrai qu'on reprend la structure finalement d'un Super Metroid, mais on est quand même sur une portable, donc il faut quand même arriver... Alors même si Galaxies, la semaine dernière, disait ben, « je suis pas d'accord » parce qu'effectivement, il y a des zones assez larges, et il y a des... parfois des grandes attentes entre deux points de sauvegarde. C'est vrai à certains moments du jeu, où on peut passer justement un quart d'heure, 20 minutes sans avoir de points de sauvegarde. Mais ça reste quand même un jeu. Enfin, moi, c'était le jeu de chiottes d'un de mes colocs quand j'étais à l'université. C'est-à-dire que quand il allait chier un bol, il prenait sa Game Boy Advance, il prenait Metroid Fusion, et il savait que en 10 minutes, un quart d'heure, il avait fait sa petite affaire et qu'il avait avancé dans Metroid Fusion. C'est vrai que c'est le jeu idéal parce que tu peux vraiment avancer par petits bouts. Le laisser le reprendre, je trouve, il est plutôt bien adapté au format portable. Et peut-être que le côté plus dirigiste, c'est aussi là un peu pour ça, pour éviter d'avoir une station de sauvegarde tous les 3 mètres, et pour te permettre d'avoir finalement des parcours prédéfinis dans lesquels on sait que tu vas avoir 2 stations de sauvegarde jusqu'à l'objectif, et que donc tu vas avoir des sessions de jeu un petit peu plus courtes. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'imagine.
Ben, moi, ça me surprendrait pas qu'ils aient cette réflexion... pour cet épisode, quoi. Mais du coup, ce qui a fait qu'il y a beaucoup moins de backtracking, beaucoup moins de possibilités de casser le déroulement du jeu, il y a juste à un moment où c'est faisable, et ça aurait vraiment été pensé d'ailleurs par les développeurs, puisque si jamais on y arrive, on a droit à un message spécial des développeurs qui te félicitent, plus ou moins. Donc c'est vrai que c'est un Metroid, une façon de faire de Metroid qui est assez différente, et on se plaint beaucoup du dirigisme, de la linéarité de Over-M, mais en vrai Fusion elle l'avait déjà, quoi. C'est juste mieux fait.
Oui, c'est ça, en fait Metroid Fusion est peut-être pas le point d'orgue de la série, c'est peut-être pas le meilleur jeu de la série, mais il reste néanmoins un jeu très agréable à parcourir, dans le sens où c'est une espèce de variante un petit peu plus scénarisée, un petit peu plus dirigée de quelque chose de connu et qui marche bien. Donc finalement, les éléments qui marchent très bien dans Super Metroid sont repris, à l'identique, de gameplay, de progression, et ainsi de suite. Et les éléments qui sont peut-être un peu plus gênants pour les débutants, on va dire, sont gommés. Donc je dirais que s'il y avait un ordre dans lequel faire tous ces Metroid canons, Et puis une plateforme à privilégier. Moi je trouve que commencer par Metroid Fusion c'est pas idiot. Alors certes c'est prendre l'histoire un peu à l'envers, mais c'est bien expliqué au début du jeu, donc c'est pas gênant. Puis le scénario est pas non plus... Enfin c'est pas... voilà, on n'est pas dans... Dans Elle est Noire, je veux dire, on a le scénario, il est
bon, c'est de la SF bas de gamme, hein, Metroid. Hein. J'aime beaucoup l'univers, mais et les ambiances, mais c'est très bas de gamme.
On est bien d'accord. Ça reste... Il y a eu des rumeurs de films Metroid pendant des années. J'espère que ça se fera jamais, parce que j'ai peur que ce soit vraiment minable.
Si vous voulez un film Metroid, regardez Alien, quoi.
C'est ça. Franchement, faites-vous la quadrilogie Alien, celle d'origine.
Surtout les deux premiers.
Alors,
le 4, j'ai un peu plus de mal.
Moi, personnellement, le 4, je l'aime beaucoup.
Le 4 a été réalisé par le réalisateur d'Amélie Poulain.
Il a été réalisé par Jean-Pierre Jeunet, et il a surtout été réalisé par Jean-Pierre Jeunet après La Cité des Enfants Perdus, avec le cast de La Cité des Enfants Perdus, et avec un scénar qui est le même que La Cité des Enfants Perdus, parce que Jean-Pierre Jeunet était vénère que La Cité des Enfants Perdus ait pas mieux marché que ça au cinéma. La Cité des Enfants Perdus est un film absolument excellent, que je vous recommande à tous. C'est vraiment un film exceptionnellement bon qui utilise un nombre d'astuces de réalisation complètement foufou, qui a un scénario totalement craqué, et en réalité toute l'équipe de quasiment 100% de l'équipe de L'Île des Enfants Perdus se retrouve dans Alien 4, où là il a enfin les millions de dollars qu'il faut pour faire à peu près ce qu'il veut. Et franchement, moi Alien 4, je l'aime beaucoup à cause de ça.
Ouais, je savais pas, c'est mignon comme histoire.
Franchement, c'est un peu... Je veux faire le film que j'ai envie, on me file Alien, bah très bien, je vais adapter le truc, et j'en ai rien à foutre, je reprends le cast, je reprends le truc, je reprends des morceaux d'histoire, je reprends des idées de réal, je reprends des plans, c'est... voilà. Moi personnellement, c'est le truc qui me fait bien triper avec Alien 4. Alien 3 est peut-être le mouton noir, parce qu'effectivement, il n'y a pas de Metroid associé à Alien 3.
Non, effectivement, c'est peut-être le seul qui est un peu...
C'est pas celui qui a été réalisé par Jean-Pierre Jeunet ?
Non, justement, on va dire, c'est Alien la Résurrection.
C'est Alien Resurrection, Alien 4.
Oui, bah techniquement, c'est pas une reprise, effectivement.
Alien 3, c'est celui qui se passe dans une prison.
Ouais, avec un alien isolé. Qui... Alors, selon la version, c'est soit qui sort du cadavre d'un chien, soit d'une vache.
Voilà.
Selon la version. Et c'est David Fincher qui l'a fait.
Tout à fait. Donc en 1995, c'était d'un chien, effectivement, dans la version cinéma. Et la version édition spéciale de 2003, c'est d'une vache.
Je crois que j'ai vu la version avec la vache.
Mais la version spéciale de 2003, les doublages ont été partiellement refaits pour les parties du film qui ont été rajoutées, mais pas par les mêmes doubleurs que la version de 95. Donc du coup, le méli-mélo est assez absurde. Même si certains dialogues sont plus cohérents dans la version de 2003 que dans la version de 1995. Bref, on n'était pas là pour parler d'Alien 3, mais voilà, si vous voulez voir une adaptation ciné de Metroid, effectivement, je pense que Alien,
Alien
et Alien 4... Vous avez une bonne...
Une bonne idée, et puis vous comprendrez aussi pourquoi Samus est une fille.
Alors, Zergy nous dit, du coup, dans la version de 2003, tu peux avoir du lait d'alien, puisqu'effectivement, il sort d'une vache.
Là, je crois que le pH doit être un petit peu élevé, enfin, doit être un petit peu bas, 3-6,
ouais,
tu vois.
Ouais, ça doit être un peu compliqué. Hein.
Voilà, donc... On va peut-être revenir sur Fusion.
Voilà, donc si... Moi, personnellement, si je devais conseiller un ordre dans lequel faire les jeux, je commencerais par Fusion.
Par Zéro Mission, hein. Je m'embêterai pas, hein. Je commencerai par le début scénaristiquement et après je ferai les autres.
Je sais pas, Fusion, je trouve, est un petit peu plus guidé, un petit peu plus sur rail que Zéro Mission, et finalement c'est pas plus mal, quoi. Parce que Zéro Mission est ultra agréable à jouer, hein. Vraiment, c'est
excellent jeu. Je trouve Fusion un petit peu plus rude que Zéro Mission, qui
est un peu plus difficile.
Et pour le coup, Zéro Mission, c'est Metroid, c'est un super Metroid Light. C'est plus guidé, c'est plus simple, le jeu est plus court. Et c'est une très bonne base pour s'introduire à Metroid de manière générale, parce qu'il est à mi-chemin entre le dirigisme de Fusion et la liberté de Super Metroid, en fait.
Ouais, mais du coup, effectivement, Fusion, Zéro Mission en premier, et éventuellement Samus Return sur 3DS, parce que je pense que même si le jeu n'est pas exempt de défaut, il est quand même intéressant à jouer.
En fait, c'est bien de faire les quatre
canoniques.
Forcément
Super Metroid.
Scénaristiquement,
simplement,
c'est intéressant,
voilà,
de faire les 4.
Si vous voulez faire les 4, faites les remakes pour les deux premiers, parce que les deux premiers, ils sont quand même...
Ouais, vous embêtez pas, prenez les vieux jeux.
Voilà. C'est vraiment... Je trouve que c'est quand même assez compliqué d'arriver à le faire.
Zéro Mission est une très bonne reprise. Bon, Samus Returns a ses défauts, mais ça reste quand même un jeu qui est très agréable. Et après, bon, Super Metroid a globalement bien vieilli, et Fusion aussi, quoi.
Mm-hmm. Avant qu'on clôture cette émission, un petit dernier mot. Alors, moi je dis le mien, effectivement, l'ordre dans lequel il faut les faire si vous avez envie d'y rejouer. Moi je vous conseille d'y rejouer, surtout que. Alors autant. Alors il me semble, je vais pas dire de bêtises, Zéro Mission est disponible que sur GBA. Je crois pas qu'il soit sorti en console virtuelle, mais je me demande s'il est pas sorti en console virtuelle Wii U Zéro Mission.
Ah, c'est à voir, ce serait bien dommage si c'était pas le cas.
Bah si c'était pas le cas, ce serait bien dommage, mais je suis pas sûr. J'ai un vieux doute.
Je vais regarder.
Je veux bien, parce qu'il me semble qu'il y avait eu une histoire comme quoi la ROM, enfin Metroid sur NES était disponible à genre 4€ ou 6€ sur la console virtuelle Wii U, alors que Zero Mission est disponible à 8€ et qu'il incluait justement la ROM d'origine de la version NES. Donc c'est un peu la Game Boy qui émule la NES qui est émulée dans la console virtuelle Wii U, donc c'est un peu compliqué. Mais
alors, d'après Nintendo.com, Metroid Zero Mission est disponible au moins aux États-Unis.
Ah, donc sur plus Wii rentable U. En plus, deux jeux pour le prix d'un.
Et je crois que c'est aussi le cas, oui, pour l'Europe.
Par contre, il me semble que Metroid Fusion n'est jamais ressorti ailleurs que sur GBA.
Et du coup,
c'est peut-être un peu moins accessible. Je te laisse vérifier pendant que je meuble.
Vas-y, meuble.
Super Metroid est donc ressorti sur tous les supports possibles et imaginables. Et quant à Metroid 2, il y a une version qui traîne sur la console virtuelle 3DS. Oui, alors Zergin nous dit aussi sur 3DS via le programme ambassadeur pour le Metroid sur NES. Effectivement, je l'ai, puisque je suis...
Pour Fusion
NES
aussi, je pense.
Fusion et Zero, je crois aussi, parce que je crois avoir fait les deux, justement, comme ça.
Zergin nous dit non pour Fusion.
Ah merde.
Ah si, Fusion, par contre, c'est sûr, je l'ai fait comme ça.
Sur console virtuelle Wii U ?
Non, sur le programme ambassadeur.
Ah oui, sur programme ambassadeur, oui, pardon, sur le programme ambassadeur, oui, il y a.
Oui, mais Zergin, vu que tu parles pas, on comprend pas.
Bref, donc tout ça est quand même très accessible à un prix raisonnable dans toutes les bonnes crèmeries. Alors peut-être sauf Fusion du coup, qui est peut-être un peu moins accessible.
Ah, je sais pas, mon navigateur a décidé de pas fonctionner.
Bon, bien c'est pas grave.
Je suis désolé, vous irez chercher vous-même, mais ça me surprendrait qu'ils aient pas mis Fusion, qu'ils aient mis Zéro Mission et pas Fusion.
Moi ça me surprendrait pas. Mais bon, c'est pas grave. Enfin bref, jouer à Metroid c'est vraiment très bien.
Ah si, Fusion est dispo aussi sur console virtuelle Wii U.
Bon, bah voilà. Donc ils sont tous disponibles sur une console virtuelle quelconque si vous voulez les acheter.
Nintendo fait bien son boulot.
Voilà, légalement et sur des consoles récentes. Les cartouches GBA ne coûtent pas très cher. Un Metroid Fusion, Metroid Zero Mission, ça tourne aux alentours de 10-15€.
C'est pas des jeux très rares et
c'est des jeux qui sont très populaires en leur temps. Si vous cherchez pas des versions complètes en boîte, en tout cas, voilà. Méfiez-vous, il y a énormément de contrefaçons qui traînent. Il y a tout un article sur le dojo pour vous expliquer comment repérer les contrefaçons le plus facilement possible, mais il y a beaucoup de contrefaçons qui traînent des deux Metroid. Ça se fait très bien sur Game Boy Advance, hein, avec une Game Boy Advance SP. On est confort, on est bien, on peut jouer un peu n'importe où, c'est agréable. Sinon, sur émulateur, ça marche très bien aussi, c'est peut-être un peu moins agréable. Mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut. Est-ce que, messieurs, vous avez un dernier mot concernant Metroid, avant qu'on clôture cette émission ?
Jouez-y. Ça fait un mot un peu long, mais...
Moi, j'en ai un. Metroid, qu'est-ce qu'on s'amuse ?
C'était la citation du jour, merci Antix.
Ah
non, mais je pense que tu peux. Voilà, on se retrouve, nous, la semaine prochaine. Je suis très content d'avoir fait cette petite rétrospective Metroid. C'était dense, hein, je suis désolé, ça va être un peu compliqué à digérer parce qu'on a vraiment donné énormément d'informations et des choses comme ça. Mais
et on a fait un tour de l'actu
ultra court. C'est pour ça que c'est vrai que là, on a essayé de réduire au plus possible, mais c'est compliqué. Ça me gênait de couper l'émission en deux, parce que je pense que ça aurait fait peut-être un peu long, du coup. Donc c'était bien d'arriver à faire un truc un peu plus condensé. Peut-être qu'un jour, on fera quelque chose d'un peu plus étalé sur Super Metroid, par exemple, parlant des speedruns, des différents records, des différentes stratégies, peut-être des choses un peu plus à aborder. Bref, en attendant, on va se retrouver la semaine prochaine pour une émission je sais pas quoi encore, parce que j'ai pas regardé.
Très bonne émission.
Mais une très bonne émission, quoi qu'il arrive. Bref, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, ciao tout le monde.
Bye.
Bisous.